une histoire particulière. L'été d'une histoire particulière sonne comme un déconfinement. Les événements culturels et sportifs ayant été soit annulés, soit reportés, il était donc normal qu'une histoire particulière mette le sport à l'honneur. Quelque part, je me dis que cela va tous nous faire du bien. Chaque dimanche, de 17h à 18h, je vous retrouve donc pour une histoire singulière liée au sport. Pour nous remettre en jambes, commençons par le rugby. Le tournoi des Six Nations, en toute logique, a été suspendu au mois de mars dernier. 4 rencontres ont ainsi été reportées, Irlande-Italie, Pays de Galles-Écosse, Italie-Angleterre et France-Irlande. Elles devraient finalement être disputées à la fin du mois d'octobre. Pour vous aider à patienter, je vous invite à découvrir le livre « Propos mêlés sur le rugby », un livre collectif écrit par 75 personnes mêlant écrivains, journalistes, historiens, philosophes et surtout joueurs et joueuses qui témoignent de leur passion pour l'Ovalie. Ce livre rend hommage au jeu, à ce temps béni, dont Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck vont maintenant vous raconter l'histoire.
Et des fois, tu donnes de la force et tu sens qu'elle ne passe pas. Simplement parce que ton placement n'est pas bon. Parce que tu es un peu dessus, parce que tu rippes un peu, parce que tu es un peu latéral. Tu le sens. Reviens dans la position où tu pourras donner de la force. Vers jeu.
Vie et petite mort du rugby français. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck. Première partie, au temps béni du jeu. Le rugby de mon enfance est mort en plein été, un jour d'août 1995. J'avais découvert ce sport une dizaine d'années plus tôt dans les tribunes du stade Marcel Michelin, un pré gelé et gras où évoluait l'AS Montferrandaise, un quartier populaire de Clermont-Ferrand où mon grand-père était né, près des usines Michelin. Mon grand-père, ouvrier aux usines Michelin, avait le sens du combat. Sans doute estimait-il que le rugby allait forger mon caractère et par-delà, mon identité politique. Il était un grand admirateur de la famille Herrero, tous joueurs de rugby, dont le père, Émile, était ouvrier agricole et joueur de première ligne à Puisserguy.
Bon, je suis assez heureux que le papé ait eu quelques affections pour mon histoire.
Daniel Herrero.
Que tes anciens aient eu, en l'occurrence, un grand-père du milieu auvergnat autour d'un club de rugby assez mythique dans la région de l'ASM, Montferrand ou Clermont-Ferrand, n'est pas anodin de fait. C'est vraiment le prototype d'une pratique sportive liée au monde du travail. En général, d'ailleurs, le travail à ce moment-là, il est plutôt rude. En général, on est plutôt solidaire dans le monde du travail, de la rudesse. Et en général, les vertus du courage sont régulièrement stimulées, on dira. Être courageux, être solidaire, être dans le partage, être nombreux ensemble, faire en sorte qu'il n'en manque pas un à l'appel quand les affaires, des choses sont rudes. Je viens de te définir, de fait, là, à la fois l'univers du monde du travail de Michelin, en l'occurrence, et en même temps l'univers moral de Dame Ovalie, de fait. Et ton papé, il dit, chez Herrero, peut-être, il perçoit ça.
Encore une fois, un comportement de stabilité serré, bien dans l'axe, ballon porté, ballon au chaud, les hommes qui se tiennent, qui poussent bien ensemble. Et ensuite, dès qu'il y a de l'air, on doit avoir des comportements de perforation. Dès qu'on avare dans la balle, c'est un comportement de perforation. Il s'allonge, il accélère, il se baisse.
Ça me plaît d'être avec des collègues, ça me plaît qu'on soit nombreux, ça me plaît que l'aventure soit rude, ça me plaît que derrière la rudesse, il y ait la tendresse, ça me plaît que la chaleur humaine qui se dégage de l'urgence du jeu, elle génère en même temps des convivialités fraternelles.
Nous sommes des amis, le rugby nous unit et pour longtemps heureux. Je suis de ce pays.
Daniel, formé au rugby club toulonnais, était soudainement parti marcher sur les traces du Che en Amérique latine, alors qu'une carrière internationale lui tendait les bras. Pour mon grand-père, nul doute que les valeurs de solidarité et de combat incarnées par le rugby résonnaient au cœur du militant.
Mon père est prolo, il va à Lima le dimanche, il travaille au chantier de la Seine, tu vois, il est grutier, avant il était ouvrier viticole, c'est le rugby qui l'a fait venir à la Seine pour on y trouve un boulot, enfin bon, il joue au club de 3e division. Voilà. Moi je grandis là, je vais acheter le Petit Varois, qui est le journal du pays communiste. J'ai le privilège dans ma famille d'être le seul, oui, de faire des études. Et quand j'arrive dans ma puberté, déjà j'ai mis le nez à la fenêtre, je suis capitaine d'équipe de France junior. À l'âge de 16 ans, 17 ans, je joue avec les grands de Toulon, dans l'équipe 1, tu vois ça. Mon excitation, ma turgescence affective et morale, tu vois, ne vient que du fait que je m'approche de l'élite. Ça c'est vibrant, quoi, tu vois. J'ai 20 balais, je suis né en 48, moi. Et puis, va-t'en voir que l'année de la flamboyance et de la vingtaine, tu vois, le pays de France se met en agitation. Mais alors, en agitation pour de bon. Je comprends pas tout, moi. Par nature, quand même, la rébellion est respectable. Et va-t'en voir que 68, le rugby part en vrille, pendant 3 mois, on joue pas. Mais avec l'équipe de Toulon, on fait la finale, on arrive au bout, on perd en finale contre Lourdes, c'est en 68. Et là, 2 jours après, je pars en Bolivie, sur les routes du Che. Je vais voir le Che, j'ai la sensation, je pars. Je sais même pas où c'est l'Amérique latine, moi. Et je pars, je vais y rester 6 mois. Donc à partir de là, bouleversement dans ma vie, grosso modo, cette période-là m'ancre dans l'idée que le feu que j'ai autour de la balle ovale ne sera jamais éloigné du feu que je porterai à la compréhension des hommes, à l'aventure des hommes. Le jeu, à partir de ce moment-là, ne sera jamais qu'un seul et ordinaire prétexte à bien vivre avec mes frères.
Série 3 ballons. Là, vous mettez en chasuble. Allez, en place.
Désireux de marcher à mon tour sur ces traces, je m'essayais à la pratique du ballon ovale, sans grande conviction. Sans doute, la mémoire des matchs virils que j'avais pu observer au stade Michelin des années plus tôt, associée à une peur bleue de la maillotche, aussi bien qu'à un physique ingrat et à une absence totale de vision stratégique de ce jeu, eut raison de mon engagement en qualité de demi de mêlée. C'est loin de la pression populaire et familiale que mon amour pour le rugby décupla, grâce à la télévision, sous les assauts rhétoriques de Roger Coudert et le flegme gaulien du landais Pierre Albaladejo.
Oui, Splendide. Moi, je vous le dis, ça, c'est du rugby. On croyait qu'ils étaient morts, ils revivent. Regardez cet homme.
Pêle-mêle, les seigneurs de ce sport se nommaient alors Jean-Pierre Rive, dit Casque d'Or, le maillot bleu, blanc et toujours maculé de sang. Serge Blanco, l'imprévisible, capable de mystifier à lui seul l'hémisphère sud, l'escarboura, dit la bombarde, ou l'orieux le pompier, né à la tronche. Et bien sûr, Daniel Herrero, devenu entraîneur et champion de France en 1987 avec le RC Toulon, le père de tous ces insoumis, avec son bandeau rouge ceint autour du front, et qui, mon grand-père me l'avait rabâché, avait été privé de la finale du championnat de France 1968 par son club, pensez donc Toulon affronter Lourdes, pour avoir caillassé un véhicule des forces de l'ordre.
André Boniface, Rancoul, Domenech saute, et Domenech. Messieurs, c'est un essai historique. La balle a été touchée par 14 mains différentes. Eh bien, après ça, on peut mourir.
Au rugby, l'offense, quand on pouvait vous faire autrefois, c'est quand on vous disait que vous étiez personnel. C'est-à-dire que le joueur gardait le ballon pour lui. Et ça, c'est une éducation qu'on a eue à la base.
André Boniface, joueur de l'équipe de France des années 60.
L'important dans sa tête, c'est de penser qu'on a un partenaire à côté et à lui donner le ballon dans les meilleures conditions possibles. L'important, c'est de faire une passe, qu'il y ait une continuité de jeu.
Le moteur activant numéro 1 dans la chose, c'est le jeu. C'est le ludus. C'est la morale de la légèreté, de l'initiative multiple, de l'engagement. Voilà, le jeu. Ceux qui ont inventé le jeu, grosso modo, je dirais, la couche maçonnique anglo-saxonne, hein, ceux qui ont inventé le jeu, l'ont inventé à partir de l'exclusive morale du jeu. Le jeu, c'est pas le travail, collègue. Le jeu, c'est pour passer une belle jeunesse. Le jeu, c'est pour construire ta jeunesse. Le jeu, c'est pour libérer ton goût d'entreprise. Le jeu, c'est pour libérer la gratuité de l'action. Rien de ce que tu feras ne sera capital pour le destin de la planète, petit frère. Sois tranquille. Hein. Tu vois, le jeu porte ça. Et jusqu'en 70, on dira, ces années-là, depuis la naissance, c'est-à-dire depuis 1820, le jeu n'a pas bougé. Il est donc amateur, seuls ceux qui l'aiment y jouent. Amateur, jamais il deviendra professionnel. Il y a quelques filous qui se filent 50 balles derrière l'église, qui commencent à envisager que pour aller jouer de Bayonne à Toulon, peut-être on te filerait 100 balles pour que tu achètes la machine à laver à ta mère. Ou un peu, tu vois, on voit des mécanismes qui sont déjà ancestraux. Chez les Français, interdiction. Et le rugby sera quasiment la dernière pratique sociale, sportive de haut niveau qui restera jeu.
Et si tu te prends pour quelqu'un d'autre que tu veux gagner des thunes, tu frigo, tu rentres chez toi. Tu vas cirer les pompes à ton patron pour essayer de gagner des thunes, ou même tu vas essayer de le devenir, que la galère roule. En rien, le jeu ne pouvait être autour d'un intérêt à caractère économique. Il n'était que sur des intérêts moraux. Il n'était que sur des intérêts de joie de vivre.
Tout est permis, d'après moi, dans l'attaque. Il faut avoir ce petit côté fanfan la tulipe, un peu, hein, si je puis dire. Et bien, il faut partir de temps en temps. On se dit, tiens, là-bas, ils sont deux, nous, on est trois, et bien, on va les attaquer.
Joe Mazo, prince de l'attaque, 1974.
Je crois qu'en plus, le spectateur attend ça du jeu de rugby. Hein. Le spectateur vient pour avoir des émotions, et l'attaque apporte ses émotions. Et nous, Français, qui avons en plus ce côté un peu fleur bleue et fanfan la tulipe, il faut le garder, il faut le... C'est ce qui fait la différence avec tous les pays anglo-saxons. Moi, ce que je voulais, c'était être heureux sur un terrain et rendre les gars qui étaient à côté de moi heureux. Le jeu français, c'est le jeu d'attaque.
Je me souviens des 27 secondes d'histoire qui m'ont définitivement lié à ce sport. Petits et gros, grands et laids, ouvriers agricoles et ingénieurs, tous unis dans un même mouvement. C'était le 3 juillet 1994 à Auckland. 15 hommes tout noirs, face à 15 bleus. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, les Blacks mènent de 4 points lorsque l'arrière néo-zélandais tape un coup de pied de dégagement qui retombe 50 mètres plus loin dans le camp français. Philippe Saint-André s'en saisit et transperce le premier rideau noir.
Saint-André pour une relance. Philippe Saint-André pour une relance. La balle est pour les Français. Voilà, ça repart. Ça repart, il y a le surnombre. Il y a le surnombre Benazi. La passe pour Tamac. Il y a Philippe Sela là-bas, il y a Cabane, il y a Deleg, et il y a peut-être un essai au bout, ben oui, c'est le seul, c'est le seul de la victoire, c'est le seul de la victoire, essai de Saint-Durny, et l'équipe de France gagne le match.
Mais si on essaie
c'est
de
un exploit historique, voilà. Et ben c'est inoubliable, ah c'est énorme.
C'est l'essai du bout du monde, The Try of the Century, rumine-t-on encore dans l'ovalie anglo-saxonne. Avancer vers la ligne de front adverse en servant son camarade par l'arrière, pour signe de son humilité, souveraineté de sa force. J'ai toujours regretté que l'État ne m'impose pas de jouer une saison dans un club de rugby plutôt que de m'enfermer 12 mois pour raison de service militaire. Avec cet essai du bout du monde, il se jouait quelque chose d'un joyeux désordre dont l'organisation tenait autant à l'esprit de corps d'une équipe qu'à une stratégie de tableau noir. Un essai d'un autre monde, celui de l'amateurisme, qui un an plus tard, au mois d'août 1995, allait résonner comme un chant du cygne.
Bon, grosso modo, il y a des petites inséminations, il y a des métastases qui naissent au milieu du XXe, essentiellement d'ailleurs sur la terre de France, mais un peu les British quand même. Enfin bon, on sait, la pression du champ économique, le jour où la médiatisation commence à enfler, grosso modo, quoi, les années 60, 70, ça va mettre 20 à 30 ans. Le bouleversement aujourd'hui, c'est que grosso modo, autour d'une seule idée, hein, GEU à travail. Voilà. Le jour où on est passé du jeu vers le travail, le bouleversement a été colossal.
Il était peut-être temps que ce sport grandisse, qu'il sorte de ses dessous de table, de son accent trop rugueux, parlé de Lourdes à Bédarieux, et que vienne le temps du professionnalisme. Exit donc l'ère des fourchettes, des cravates et autres plaquages torpilles. Des premières lignes gras comme des bouchers grillant dans le vestiaire à l'heure d'aller au combat une dernière gitane. Dans ces années 80, marquées par l'entrée massive de l'argent dans le sport, la libéralisation des chaînes de télé pourvoyeuses de spectacles, le rugby des champs, des amis et des gros bourgs du sud-ouest étaient menacés. En 1984, Canal+, futur diffuseur du rugby français, faisait son apparition dans le paysage médiatique. Cette même année, les Jeux Olympiques de Los Angeles faisaient disparaître le mot « amateur » du serment des athlètes. 3 années plus tard, la première Coupe du monde de rugby était organisée en Nouvelle-Zélande. Le rugby part à la conquête de la planète, sous l'étendard de la France, dont le jeu flamboyant échoue en finale contre les indétrônables All Blacks.
Et tu comprends bien qu'avec la première Coupe du monde, c'est fini. 87, la cocotte minute explose. Coupe du monde, grand rendez-vous mondial. La France fait la finale. Déjà, en 87, on gagne pas mal de thunes. Par exemple, je sais pas, moi j'étais prof à ce moment-là, j'étais entraîneur, je gagnais
le double du salaire de mon salaire de prof, par exemple. Bon, et quand même, je vois les joueurs de l'époque, ben, un avait un bar à lequel on avait prêté quelques émoluments, et on le disait cabaretier, limonadier. Les rugbymen étaient ou limonadiers, ou quelques-uns, les plus éduqués, mais il n'y en avait pas beaucoup, des magasins de fringues, tu vois, à peu près. Voilà. Et d'ailleurs, on installait l'élite dans un petit commerce au centre de la vieille ville de Carcassonne, de Limoges. Ça, c'est 87. 87, 7 ans après le professionnalisme. Voilà. Tous les temps avant, depuis l'après-guerre, l'élite gagnait un peu d'argent. De fait, sois tranquille, le professionnalisme a tué simplement la poésie. Voilà.
Ce que j'aimais, c'était de voir en short des corps mal taillés pour le sport, la brioche débordant sous un maillot toujours trop court. Les piliers des années 80 poussaient fort en mêlée et ne couraient pas avec panache, balle en main, comme aujourd'hui. Leur tâche était autrement plus sombre. Après une mêlée, ce lieu de tous les mystères, ils marchaient de longues minutes les mains sur les hanches pour retrouver leur souffle, pareillement à des équarisseurs découvrant leur proie leur échapper au loin, dans un dernier sursaut. Les regroupements au sol ressemblaient à d'épaisses partouzes ou à des matchs de poussins, à chacun sa vision. Ces mêlées, entrevues désormais comme des temps morts, et donc intempestives, plus fantasmagoriques que spectaculaires, il est vrai, sinon pour ceux qui s'y épanouissaient in vitro, avaient le mérite d'ouvrir des espaces aux gibiers qui patientaient à l'arrière. Pendant que les gros peinaient à se relever, souvent précédés par les deux et troisième lignes, des sortes d'assassins silencieux qui œuvraient dans les zones obscures des dix regroupements, les phasmes des lignes arrières, qui observaient jusque-là ces ébats non sans lâcheté, détalaient vers l'embut adverse. Ce qui a permis ce jeu de mouvement, d'évitement, ces fastueuses envolées qui ont porté le 15 de France au sommet du rugby mondial.
Pourquoi le jeu lui-même a à ce point évolué? Grosso modo, il va avoir un truc fétide, la médiatisation, c'est-à-dire, en d'autres termes, il faut faire grandir le potentiel de profane. Mais le profane, lui, il aimera probablement voir la balle plutôt que jamais la voir. À ce moment-là, les législateurs vont mettre en place un process qui va durer 2-3 ans, qui continue encore aujourd'hui, de « il faut qu'on voit la balle tout le temps ». Il ne faut plus qu'on l'enterre, on disait à l'époque. Il ne faut plus qu'elle soit au cœur des molles. Nous, on l'a cajolé à 8 contre 8, on se bourrait le mou, on adorait. Quand il n'y a que des tas de mecs qui se bourrinent le melon à l'ancienne, c'est pas forcément le plus... Mais l'initié boit une petite goutte de scotch. Il se met une moussette quand il voit un gros molle à l'ancienne ou que les mecs couinent. Il a du goût à ça. Non, il ne faut plus. Parce que là, les mecs dorment, les mecs baillent. Et à la sortie, il faut faire sortir la balle des regroupements. On a inventé 7 ou 8 lois en 2001, 2002, 2003, 2004. Des lois, Si tu plonges sur la balle, c'est foutu. Si tu arrives sur le travers, c'est foutu. Si tu l'étouffes, c'est foutu. Si la mêlée s'écroule, c'est foutu. Sur un secteur du jeu, là où il y a blocage, il faut que la balle vienne vite. À partir du moment où ces lois ont commencé à faire leurs effets, la balle sort vite. Mais où ils vont les mecs, là? Les 15 qui venaient batailler comme des bourricots, ils vont où? Ceux qui venaient pointer à l'angle majeur et référent de la gloire qui était au cœur du combat. Toi, tu étais un petit pilard de 3e division, mais dans le match, il fallait que tu te fasses quand même tes 15 ou 20 molles. Si tu venais pas en molle, qu'est-ce qu'il fait? Il papillonne. Il vient pas au cœur de l'aventure, il papillonne, il se prend pour qui? Il pense à sa gonzesse. Enfin, tu vois, tous ces mots-là étaient devenus équivoques sur la morale du jeu. Et là, les ballons sortent vite. Si les ballons sortent vite, les 15 mecs qui venaient s'entasser, ils se mettent où? Ils se déploient. Et donc maintenant, on a 10, 12, 13, 14 mecs. Il n'y a plus d'espace. Tu perds la balle, muraille. Et on voit arriver, la grande modification, c'est que la muraille génère, un, la catapulte, et deux, mais alors, le bélier. Le bélier, la psyché du bélier, Chabal. Et nous arrive le bélier. Chaque équipe va inventer les béliers. Et le bélier va générer un type de gonde, il faut qu'il soit confus dans le muscle. Confit. Il met les colliers horizontales, il a des gigots comme ça, il fait une passe tous les 6 mois. Tu le vois, le bélier? La psyché du bélier a amené le rugby dans l'univers des ténèbres.
Carter, le mec a des dents! Topo de Sébastien Chabal sur Massoré!
Ah, il n'y a pas eu de voyage à vide. Et puis alors, il a fait mal.
Ah, le bélier. Cet emblème d'un rugby de destruction. Exit donc ce jeu de main que nos ennemis nous ont envié. Et parmi eux, les pires, les Anglais. Ces maîtres passifs de la chandelle, rois rébarbatifs du jeu au pied, qui ont humé notre attitude fantasque sans jamais parvenir à la copier. notre fameux French Flair. Cet art de sortir du cadre, d'imposer collectivement sa puissance sans se départir du lyrisme du joueur latin. Dans ces années dites d'amateurisme, on savait préserver ses instincts, un souffle de liberté que les systèmes de jeu du professionnalisme ne manqueraient pas de tuer. Le rugby, à l'instar de tant d'autres activités humaines liées au monde du travail, n'a pas raté le tournant gestionnaire de la fin des années 90.
Moi, par exemple, quand j'avais le ballon sur un terrain de rugby, 95 fois sur 100, je faisais à peu près ce que j'avais envie de faire, si c'était bien ou pas bien, ça on pouvait discuter, tu vois. Aujourd'hui, je lisais ce matin avant de venir l'analyse de quelques Français qui ont battu les Tonga petitement il y a 2 jours. On a bien fait le job, de toute façon. J'ai déchiré le journal. On a bien fait le job. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce joueur-là? Ce joueur, je ne l'appelle plus joueur. Je l'appelle travailleur. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce travailleur qui me dit qu'il a bien fait le job dans le monde du sport, dans le monde du rugby? Aujourd'hui, dès 95, 97, 99, pro, ils font plus que ça. Ils vont s'entraîner 3 fois par jour. 4 fois par jour. 6 heures par jour au stade. 2 heures de muscu tous les jours de l'année, 365 jours sur 20. Ils vont doubler de volume. Et tous les paramètres vont être presque essentiellement sur les choses analysables, objectivables. Le travail donne du muscle. Le travail donne du poumon. Et c'est autour de ça. Qui plus est, la science, tous les secteurs scientifiques. Ouah, ça envahit le monde du jeu. Oh putain. Et là, on voit arriver tranquillement, de 2000 à 2012, on voit l'industrialisation des comportements. La robotisation, au sens propre, la présence des nouvelles technologies dans le monde du jeu. Ça fait 7 ou 8 ans qu'ils ont le GPS dans le dos. Bon, grosso modo, on voit putain, l'envahissement des scientifiques, de fait. La fin finale de la sensibilité. La fin finale de la créativité. La créativité, ça veut dire... Les joueurs, quel que soit le numéro qu'il a dans le dos, t'as le numéro 1 et le numéro 15, ils font pareil sur le terrain. C'est-à-dire, toi, t'as le numéro 1, tu vas à la percussion, tu libères. Et le numéro 15, il fait une relance, il va à la percussion, il libère. Il percute, il libère. Ah bon. Et le numéro 3, il percute, il libère. Tous font pareil. On percute la défense, on la concentre pour essayer de trouver des espaces latéraux et on la percute plusieurs fois. C'est le passage d'une pratique adaptative où on fait sur le terrain en fonction de ce qu'on voit de l'adversaire à une pratique totalement normalisée. Alors, l'ordre, la méthode, le dogme génère quand même la répétition, le stéréotype, l'ennui, le sobre, l'économe, le prudent, le rat, l'envahissement du rat. Le rat dans le sens du pègre.
Ce sport allait devoir se défaire de son identité pour entrer dans le monde moderne, penser pour l'efficacité économico-médiatique. Car le spectateur en veut, nous dit-on, pour son abonnement. Et le jeu a perdu de sa superbe, de ses excès. On n'attaque plus pour gagner, on défend en ligne, comme à l'armée pour ne plus perdre. Le rugby du 21e siècle sait se dévoiler sans risque, clôturer tous les espaces. Les quelques tempéraments fantasques qui ont gardé la mémoire de ce que fut ce jeu sont instamment priés de s'épanouir dans ce carcan. Soit les quelques centimètres carrés d'herbe fraîche laissés en jachère par l'adversaire. On a sacrifié tout ce qui ressemblait à une envolée, une communion, une occasion pour le spectateur de s'évader, de fantasmer.
D'où ça vient que sur à peu près un siècle, le 20e jusqu'à 2002, le 20e, le rugby de France a une espèce de constance. Le rugby de France. Mais avant d'analyser le rugby de France, analysons le rugby du monde. Les Gallois ont un jeu identitaire. Les Sud-Africains, ce sont des Afrikaners venus de La Rochelle ou bien sûr de La Haye en Afrique du Sud au XVIIe siècle. Ils se sont tabassés comme des poulpes. Ils ont généré une espèce de population blanche que tu te demandes comment ils sont faits. Quand ils ont soif, ils pressent des pierres et ils mangent des noirs. Bon, ça a duré 2 siècles. Non mais tu vois, elle a cette psyché-là. Et donc eux, le jeu de rugby, il n'est qu'un jeu d'autoritaire. Il n'est qu'un jeu de gaillardasse, de méchant comme la Galle. Et nous, on a une constante. Nous, il faut que tu sois créatif. Mais en même temps, il faut que tu t'occupes des collègues. Quand même. Nous avons toujours glorifié le bordel. Une espèce de glorification du désordre. Une espèce de goulayant et d'aptitude à générer des surprises dans le bordel. Et là, alors, quelques fleurons nous ont mis la turgescence définitive. Dans les années d'avant-guerre, un mec qui s'appelait Doger, qui s'appelait Servol. Dans les années d'après-guerre, les Boniface. Après Codorniou, après Charvet, après Sella, tu les vois tout cela là, ces joueurs, d'un type de joueurs classieux. Le bordel a généré nos fleurons. L'anglais, quand il nous voit jouer, il dit, putain, eux, ils ont un truc, ils sentent. Ils ont le flair. Ils sentent. Ils sentent le jeu. Ils ont cette capacité à flairer le jeu, quoi. Et ça, c'était la signature. On s'irritait de l'anglais méthodique qui faisait que des chandelles, et l'anglais nous jetait un peu l'anathème sur notre bordel permanent, sur notre capacité, sans doute, à faire des trucs un peu poétiques, jolis, spectaculaires, mais un tantinet un peu... Égoïste, c'est pas le mot. Narcisse. Un petit goût, quand même. Tu vois ça ? C'est ça, le rugby de France. Le dernier grand, Blanco. Le dernier grand, l'année 90, il n'y en a plus. Il n'y en a plus un. Il n'y en a plus un qui, à un moment, tu dis, oh, il est beau.
Et l'essai de Serge Blanco entre les poteaux extraordinaires, les Français qui reviennent complètement dans le vent.
C'est une chose étrange que d'entendre aujourd'hui les commentateurs sportifs réclamer l'orgie de jeu de naguère. Alors que les enjeux financiers, exacerbés par l'explosion des droits télé, n'ont cessé d'encourager un rugby de la peur, restrictif, plus dangereux et ennuyeux qu'autrefois. Comprennent qui pourra la philosophie de ce rugby spectacle, mené désormais par de puissants hommes d'affaires. On saupoudre un peu de sa fortune pour s'identifier à des valeurs de combat et de solidarité et acquérir une notoriété nationale. Le président du Montpellier Hero Rugby a dépensé quelques menus millions d'euros pour faire de son club une sorte d'équipe bis de l'Afrique du Sud. Parfait inconnu jusque-là, l'entrepreneur en a profité pour annoncer sa candidature aux prochaines élections municipales. Au club de Clermont-Ferrand, on déracine dès l'adolescence des joueurs fidjiens dans l'espoir de les voir s'épanouir à l'ombre du Puy de Dôme. Le championnat français est un Eldorado sans âme qui brise les rêves de jeunes joueurs issus des centres de formation français. Curieuse époque d'un rugby en pleine schizophrénie où l'on regrette que nos héros ne soient plus français et que notre équipe nationale se trouve dépourvue d'une identité de jeu.
Lâche, Hugo, lâche.
Oh, vous l'avez mis. Où vous l'avez mis, ça? Où vous l'avez déposé au fin fond de votre âme? Pourquoi plus personne aujourd'hui n'appréhende le jeu à partir de cette valeur colossale qui est l'enthousiasme est toujours mieux que l'or. À partir de cette valeur morale transcendantale, c'est que le rythme génère la joie et la méthode génère l'ennui.
Et très vite, regardez le travail de Pauline Bourdon qui va accélérer le jeu et qui va réussir ensuite à libérer...
Pour nous sauver dans ce monde ovale, il ne reste plus qu'à compter sur les rebonds capricieux du ballon. Et quant à ceux qui considèrent avec moi que le hasard ne saurait faire loi, nous pouvons regarder droit dans les yeux les joueuses de rugby. Là où bat l'âme vivante du rugby français, amateur et d'élite, tout en art d'évitement, d'un état d'esprit sans faille et d'un sourire qui émeut aux larmes. Le rugby féminin est l'avenir de l'homme.
Depuis 7 ou 8 ans, le rugby féminin a conquis des lettres de noblesse par le jeu, 27 novembre 2018. Où ce jour-là, l'équipe de France de rugby masculine joue contre l'Argentine à Lille, un match piteux que les Français gagnent mais en faisant un rugby pourri. Et l'équipe de France féminine bat les All Blacks à Grenoble devant 27 000 personnes, tu vois, en faisant un match absolument magnifique. Et les All Blacks sont champions du monde 3 fois d'affilée, quoi. Grosso modo, le rugby féminin sur la terre de France, et ce jour-là, a été plus performant, plus ludique, plus joueur. Le souffle porté par le rugby féminin, il est bon.
Messieurs, ce qu'elles viennent de réaliser ce soir, c'est magique pour le rugby féminin, c'est magique ce qu'elles viennent de réaliser. Elles ont battu les championnes du monde. Quel match et de quel...
Au temps béni du jeu, fin de la première partie, avec Daniel Herrero. Merci au Rugby Club de Drancy. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Vincent Deck.
Ici s'est échappé de Virimi Vakatawa. Le nouveau style de jeu du Racing sur cette pelouse synthétique de l'EU Arena. Virimi Vakatawa. Virimi Vakatawa qui vient s'empaler sur Ezeala et qui a sonné le jeune ailier de l'ASM. Aussitôt le coup de sifflet de Romain Poit, bienvenue pour arrêter le jeu.
Et c'est c'est au moment où la tête heurte le...
C'est solide.
Il y a la percussion d'abord et regardez, la tête, bon déjà là il y a un énorme choc et derrière la tête ici voilà, boum, qui vient heurter la pelouse.
Qui est dur sur du synthétique.
Et dessous, bien sûr, bien sûr.
Et cela évidemment nous amène à nous inquiéter. Et voir sur les images le gros contact alors que les soigneurs prennent toutes les précautions nécessaires pour évacuer le joueur.
Vie et petite mort du rugby français. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Vincent Deck. Deuxième partie, le plaquage de trop.
La stupeur à Aurillac, un jeune joueur de l'équipe de rugby est décédé hier soir après un choc lors d'un match amical. Louis Favjrovski, 21 ans, a été pris de vomissements avant de perdre connaissance. Alors ce décès est-il la conséquence directe de ce plaquage ? L'autopsie le dira. L'impact et les commotions cérébrales dans le rugby est en tout cas une préoccupation croissante.
Il y avait eu des alertes. On avait dit attention, ce sport est dangereux. Un jour, il y aura des morts sur le terrain. C'est arrivé, malheureusement.
Jean Chazal. Neurochirurgien.
Depuis 2018, 4 morts, de niveaux différents d'ailleurs. Il y a un espoir amateur qui est mort d'une hémorragie cérébrale, un professionnel de Pro D2 qui est mort d'une commotion cardiaque, un espoir aux portes du professionnalisme qui a une rupture de la colonne cervicale au niveau de la deuxième vertèbre, et un universitaire qui est mort, lui, d'un traumatisme crânien. Ces morts sont en relation directe et certaine avec le choc, le traumatisme survenu en cours de match. Ce sont les instances qui essayent de mettre un petit peu la poussière sous le tapis, ou en tout cas qui essayent de minimiser les faits. Regardez la télévision le week-end, il y a pratiquement une commotion dans chaque match joué.
Tu joues quel poste, toi ?
Moi, je suis talonneur.
C'est quoi, alors, les qualités d'un talonneur ?
Déjà, il y a le lancer.
Ils ont perdu le trouillard.
C'est ton surnom ? C'est quoi ?
Non.
Il a peur.
Toi, t'es amateur ?
Ouais, moi, je suis amateur.
Et tu fais quoi à côté ?
Je suis surveillant dans un collège.
Et une autre question qu'on va aborder aussi par ailleurs, c'est celui des commotions et de la violence des chocs liés au physique des joueurs, qui s'est quand même en 20 ans professionnalisé, a beaucoup évolué. Comment tu vois ça, toi ?
Déjà, les physiques ont augmenté, du coup les impacts sont quand même plus importants. Après, il faut voir aussi que souvent dans les écoles de rugby, on est très mal formé. Quand on voit tous les gros chocs qu'il y a, même à la télé, quand on voit les gros chocs qu'il y a, les mecs qui s'éteignent sur le terrain, mais forcément, si on met la tête mauvais côté et que le genou il finit directement dans la tempe, c'est une erreur technique. Hein. C'est tout simplement une erreur technique et je trouve qu'on n'apprend pas assez ça à l'école de rugby. On est plus sur de la passe, on fait du physique à partir de 14 ou 15 ans.
Et toi, ça te fait peur, les commotions, tout ça ? Tu y penses quand tu joues ou pas ?
Non, parce que moi, j'en ai déjà fait deux. Donc je sais ce que ça fait. Après, faut pas non plus faire l'idiot. J'ai été voir tout de suite un neurologue, j'ai passé des tests, j'ai été faire un scanner. Les mecs qui se disent « Ah, c'est pas grave, je me suis éteint, j'ai eu un peu mal à la tête, je vais prendre un Doliprane et demain c'est bon. » Ouais, il est vraiment là le danger.
Et toi, t'as fait deux coups.
Ouais.
Et c'est survenu comment ?
Sur des plaquages, pareil, un gars de 120 kg lancé avec 20 mètres d'élan en plein milieu de la face, tout de suite, la lumière s'éteint.
J'ai signé pour ça, je sais à quoi m'attendre.
Je vois pas où est le problème.
C'est bien. Organise, frérot, organise.
Tu veux que je te dise, moi dans ma carrière, j'ai connu 3 ou 4 joueurs qui sont morts, je veux dire. Connu.
Daniel Herrero.
Dans ma carrière, je pense avoir vu presque à chaque match au moins un KO. Dans ma carrière de joueur, elle se situe dans les années 70. Le temps de jeu était, comme les hommes s'entraînaient peu, ils étaient amateurs, ils travaillaient tout. Ils s'entraînaient peu, le temps de jeu d'un gros match, disons un match international, entre 20 et 23 minutes de temps effectif sur le terrain. Aujourd'hui, on est 40, 45, 47 parfois, tu vois. On a passé le cap des 40. Bon, la transformation physique, de 95 à 2000, c'est la... La France a honte de ses physiques. On dit, putain, nous, on est maigres. Nous, Benazi, c'est un enfant malade, on dirait qu'on l'a trouvé dans la rue. Nous, on a des longs, on a des secs. Et donc, on va partir sur, si on s'entraîne beaucoup, si on fait beaucoup de musculation, pour les rejoindre. Et il y a eu une espèce de goulayant absolu des Golgothes. Grosso modo, aux alentours des années 2000, de 2000-2005, alors la référence, c'est le Golgothe. La transformation physique a transformé, évidemment, le contenu du jeu, quoi. Moi, par exemple, dès ces temps-là, où les joueurs de l'équipe de France, un troisième ligne, type Jean-Pierre Ribes, il plaquait 15 fois, lui. Mais c'était un immensissime plaqueur. Un petit plaqueur plaquait, même troisième ligne, les postes on plaque beaucoup, plaquait 3 à 4 fois par match. Aujourd'hui, ils sont à 25, à 28 plaquages. Et tous, les troisièmes lignes, les centres, les ouvreurs, tous. Le volume de jeu est énormément manqué. Et évidemment, dans l'augmentation exponentielle de trajectoire de collision, le potentiel de risque augmente. Il a triplé, quintuplé, décuplé. Oh putain, il a décuplé. La médiatisation fait que, évidemment, c'est devenu perceptible, au sens propre du terme, on le voit. Ça porte des lourdeurs émotionnelles, évidemment. Où on se rend bien compte que les chocs de tête, ou les chocs sur la tête, peuvent générer des troubles cérébraux. Oh putain, on commence à s'occuper de l'enfant qu'on avait oublié, qui était le cerveau. Dans le monde du rugby, c'était pas celui qui était le plus sollicité.
Depuis 1995, c'est-à-dire depuis la professionnalisation, cette surmusculation des joueurs, c'est anormal. C'est-à-dire qu'on fabrique des hommes augmentés. Ça n'est plus l'homme homo sapiens, 1m80, 75 à 85 kilos. C'est 1m80, 100 kilos. Et cette prise de poids, c'est uniquement au profit des muscles, alors que le châssis, lui, reste tel quel. Donc on met un moteur de 500 chevaux sur un châssis de 4L ou de 2 chevaux. C'est inquiétant parce que dans les écoles de rugby, on voit des adolescents de 14-15 ans qui pèsent déjà 100 kilos, et qui mesurent déjà 1m90. Ça veut dire qu'ils ont pris des substances qui ne sont pas illicites, mais en trop forte quantité, par exemple la saponine. La saponine, ça stimule la sécrétion de stéroïdes et de testostérone. Il y a des flacons qui sont en vente libre, qui permettent à ces jeunes, ou même aux professionnels, d'augmenter leur masse musculaire. Ça donne une puissance à ces joueurs qui ne se posent plus de questions. Au lieu de passer par la porte laissée entrouverte par l'adversaire, ils traversent la cloison, ils sont tellement costauds.
J'ai commencé à jouer au rugby quand j'avais 9 ans. Et c'est mon père qui a un ancien joueur qui m'a un jour demandé à l'essayer. Il y avait vraiment une pression sur les épaules. Il m'a dit, tu veux essayer ce sport? J'en avais fait plusieurs avant. Il m'a dit, essaye ça, c'est sympa, tu verras, moi j'aime bien.
Maxime Villalongue.
Et du coup, j'ai commencé comme ça à 9 ans, le rugby. Et avec un joueur de chauffeuse, on est parti faire les détections au stade français à l'époque. On est 14 ans, je crois. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on est rentré au rugby au stade français. Et ensuite, je suis parti dans les filières fédérales. Donc en fédéral 2 à Gennevilliers. Et ensuite, en fédéral 2 à Orsay, pendant un an.
Fédéral 2, c'est l'équivalent de la 4e division, c'est ça ?
Exactement. Il y a deux divisions pro qui sont top 14 et pro D2. Et ensuite, fédéral 1 et fédéral 2. Donc première division amateur et seconde division amateur. Et la seconde année, c'est là que j'ai eu mon accident. C'était en février 2017, on jouait contre Suresnes au Mont-Valérien à Corset. Et en fait, pendant une phase de jeu en ruck, j'ai pris un coup de genou assez rapide derrière la tête, au niveau du cervelet. Et il se trouve que ce coup de genou a occasionné une mini-lésion qui s'est ouverte, une lésion dans le cervelet. Et le sang s'est écoulé. Il y a un hématome qui se forme. Mais à l'intérieur du cerveau, donc c'est une hémorragie. Et donc, au bout d'une demi-heure, le sang avait pris de la place totale à l'intérieur du cerveau. Et ce qui fait que là, la pression est devenue insoutenable. J'étais encore sur le terrain. Et seul, sans phase de jeu, j'ai eu des envies de vomir. Et je pouvais presque plus bouger. Donc, je suis sorti tout seul. Et puis là, j'ai commencé à ne plus pouvoir parler, à vomir. Le match s'est arrêté. Et c'est comme ça que c'est arrivé, en fait.
« les joueurs et puis je dirais les coachs, les formateurs, les préparateurs physiques, les présidents. J'ai parlé moi avec tous ces gens-là. Ils me disent mais finalement alors qu'est-ce qui se passe une commotion? Alors moi je vais vous l'expliquer très simplement. C'est un mouvement d'accélération décélération. Le cerveau subit un ébranlement, un peu comme un fromage blanc dans une boîte rigide en plastique qu'on secoue. Le cerveau est secoué. Il y a une onde de choc qui pénètre à l'intérieur du cerveau. Soit elle reste en surface et ça fait peu de dégâts, mais il y a quand même, on est un petit peu sonné, on marche plus très droit, on est un peu désorienté quelques minutes, même simplement quelques secondes, ou cette onde de choc va très loin dans le cerveau, jusqu'à sa profondeur, jusque dans les zones les plus sophistiquées. Et à ce moment-là, on dit qu'il y a une perturbation du trafic neuronal, dont on ne peut pas mesurer la durée au départ. Hein. Ça peut être très transitoire, et ça peut être permanent, voire définitif, parce que il y a une cascade de réactions neurobiologiques à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire que les membranes se dépolarisent, il y a des mouvements d'ions, sodium, potassium, calcium, qui permettent le passage du courant électrique, qui se font, qui sont réversibles ou irréversibles, il y a une sécrétion de protéines anormales, et au bout du compte, on est incapable de prévoir quelle sera la durée des signes, d'une part, immédiatement après la commotion, et quelles seront les séquelles prévisibles. Alors, vous voyez, c'est un problème d'une extrême complexité qui est méconnu de beaucoup.
Et la réalité, c'est qu'en effet, ces blessures sont des blessures qui sont invisibles. Donc, c'est difficile à en parler, à que ça soit entendu par les coachs et par tout l'encadrement d'un SAF. Quand on sait qu'il y a énormément de pression financière sur le club aujourd'hui, le club pro, hein, sur le plan amateur, mais en pro, du coup, les joueurs eux-mêmes, je pense, n'ont pas encore tous conscience de la gravité que peut occasionner une commotion.
Allez, tous ensemble, les gars, tous ensemble. Allez, vous prenez.
Quand on est dans le stress de la compétition, dans la pression de cette compétition, le top 14, c'est une compétition avec beaucoup de pression, on n'aime pas que nos plans soient contrariés.
Adrien Bononato, entraîneur de l'équipe professionnelle d'Oyonnax, 2018.
Par exemple, je l'ai la scène où on est par exemple sur une séquence, on est en train de défendre, on a besoin des 15 joueurs pour défendre, et on a un joueur qui est au sol et on demande au médecin, faut que tu me le relèves, faut qu'on soit 15 à ce moment-là, faut que tu me le relèves. Au lieu de dire, va vite voir ce qu'il a, attention, il y a un problème, il y a un danger. Nous, notre premier réflexe, c'est d'avoir tous nos joueurs sur leurs pieds pour défendre. Donc, dès que le match commence, on n'est plus du tout dans cette logique de protection.
Alors, je ne vais pas me faire des amis, mais tant pis. On a basculé du sport amateur au sport professionnel. Il y a une hyper-médiatisation du rugby. Il faut gagner à tout prix. Or, les joueurs se blessent de plus en plus. Les contrats professionnels sont de plus en plus nombreux dans tous les clubs, parce que quand il y a beaucoup de blessés, il faut beaucoup de remplaçants. Ces remplaçants, il faut les payer. Il y a donc des enjeux financiers. C'est le sport business, d'une certaine façon.
Nous, on est un club de fédéral 1 maintenant, mais on était fédéral 1 la saison dernière. On monte parce qu'on fait une saison extraordinaire et puis que voilà, le groupe fonctionne.
Benjamin Perrier, président du rugby club de Drancy.
On n'avait vraiment aucunement l'intention de monter en fédéral 1. C'était pas du tout prévu. Donc on est monté, et on est monté avec nos moyens et puis on vit une aventure.
Et voilà. Le monde professionnel, alors, ça vous attire, Drancy?
Pas du tout, non. Moi, en tout cas, en tant que président, là, aujourd'hui, je vous dis non. Je ne veux même pas y accéder, ça ne m'intéresse pas. Bon, le top 14, personnellement, je ne le regarde plus depuis déjà un petit moment. Ça m'ennuie. C'est du défi physique 90% du temps. Et le feeling du rugby, ce qu'on appelait le French flair, ces choses-là, on les voit très rarement. Et je pense qu'on perd notre âme.
Pour lifter, pour lancer, on s'engage dans ce concours. Et vous allez voir que tout va devenir simple. On arrête avec les hésitations. Ok ?
Nous, on a inventé la passe en arrière pour une seule idée. Quand tu passes en arrière, tu vois pas les mecs à qui tu passes, quand même. C'est la loi 1 du jeu de rugby. C'est parce que quand tu as le ballon, les 14 autres sont toujours derrière toi, toujours, toujours, toujours. Le mot sacré du rugbyman, c'est soutien. Je te suis dessous et je te tiens. Il faut faire en sorte que ce soit la balle qui continue à vivre, que ce soit l'alternance entre le défi et la construction qui soit l'âme du jeu, et non pas à l'exclusive la destruction.
D'après vous, quelles vont être les consignes pour la seconde période puisque vous êtes réduit quand même à 14 depuis le début du match.
Ouais, mais là, les consignes, ça va être simple. Il va falloir rentrer avec des tripes énormes. On va pas parler technico-tactique, là, on va les destruncher. Puis voilà, il y a des matchs où c'est. On est 14, ils sont 15, on va y aller avec une grosse perte.
On nous dit c'est un sport de combat, d'accord. Mais les sports de combat, on les connaît. C'est la boxe, c'est le judo, c'est, etc. Bon, mais les joueurs qui s'affrontent ont le même gabarit. Il y a un arbitre, on arrête le match quand il y a une commotion ou quand il y a une blessure. Et puis à la boxe, par exemple, eh ben, on interdit le jeu pendant 3 mois ou pendant 1 an ou définitivement. Et puis c'est 1 contre 1. Et puis on a appris ce combat à esquiver, etc. Le combat, c'est une esquive. Au rugby, vous pouvez avoir le dos tourné, il y a 2 joueurs qui vous tombent dessus à 30 ou 35 km heure, qui vous brisent la colonne cervicale ou la colonne lombaire, vous pouvez pas esquiver puisque vous ne les voyez pas. Et en plus, ils sont de gabarits différents. Il peut y avoir jusqu'à 50 kilos de différence. C'est plus un sport de combat. Ou alors c'est un sport de combat sans règles et sans préparation à ce sport de combat. C'est ça qui va pas. Alors les solutions, elles sont là. Il faut revoir les règles du rugby, il faut revoir les gabarits, il faut mettre le nez dans le dossier médical des joueurs en disant mais vous avez pris 15 kilos de muscles, 20 kilos de muscles en 2 ans, comment se fait-il? Quelles sont les prescriptions? Qui vous a prescrit ça?
Il y a un contact, il va y avoir un choc, ici peut-être voilà, la tête qui vient heurter le genou, ouais, il tombe sur le genou de Van der Merwe.
Florian Fritz, il y donne son sang au stade toulousain, il sort toujours sanguinolent, il se bagarre et aujourd'hui plus que jamais cette image de ce début de match, et il est sonné évidemment, il refuse les soins du kiné toulousain
et du docteur.
Oui, il est complètement groggy, Florian Fritz, le guerrier toulousain.
Et le public qui se lève. Hein.
Il ne veut pas sortir.
Il ne veut pas sortir, il s'assoit sur le sol. Il a évidemment un peu perdu ses esprits dans le terrible choc contre le genou de Van der Merwe. Il aura donné son sang pour le stade toulousain.
Le danger, c'était que l'hématome, l'hémorragie continue de grossir, que le sang coule. Donc, la question, c'était de savoir est-ce qu'ils allaient opérer, c'est-à-dire ouvrir une partie du crâne pour désengorger le cervelet, ou alors poser juste un drain qui permettrait à la pression de s'évacuer. Donc j'ai eu un drain posé, la pression s'est évacuée et doucement baissée. Ça, c'était le dimanche soir après le match. Mais j'ai toujours mon pronostic vital engagé pendant 2 ou 3 jours parce qu'on ne savait pas comment allait réagir à la blessure. Du coup, suite à ça, ça a été un mois d'hôpital en soins intensifs et en réanimation. J'étais alité du coup pendant 3 semaines, donc je pouvais plus bouger, je pouvais plus parler. Ensuite, je suis parti au bout d'un mois en rééducation, en centre, où là, comme un enfant, j'ai dû apprendre à marcher, parler, me servir de mes mains, tenir une tasse, c'était difficile. C'est mon père qui me l'avait aidé, j'en souviens. Du coup, j'ai fait 8 mois de rééducation. Et après, j'ai essayé de reprendre une vie normale. Essayez.
À mon sens, le vrai risque que peut avoir le rugby, c'est d'être un petit peu comme le football américain, c'est-à-dire un sport médiatisé, mais avec une base de licenciés faible.
Florian Grill, président de la Ligue Île-de-France du rugby.
En 3 ans, la baisse des licenciés dans les écoles de rugby, c'est 24%.
C'est lié à quoi, cette baisse de nombre de licenciés?
C'est lié à un ensemble, l'absence de travail suffisant, à mon sens, dans le monde scolaire, alors que le rugby est né à l'école et donc il y a plus que toute sa place. Les résultats de l'équipe de France qui n'ont pas été très satisfaisants sur la période, les accidents qui ont eu lieu dans le rugby, dramatiques, et qui forcément ont frappé les imaginations.
Comment on arrive à régler ça?
Si on change les règles, on a du temps, non pas de la gouvernance de l'actuel président de la Fédé, mais de son prédécesseur. Il y avait dans le rugby pas mal d'accidentologie liée à la mêlée. Il y avait de l'élan, entre guillemets, dans les entrées en mêlée. Et donc, il y avait le risque de problèmes cervicaux majeurs qui pouvaient conduire à des tétraplégies. Et donc, l'entrée en mêlée a été complètement régulée et complètement réorganisée. La mêlée existe toujours dans le rugby. Et en changeant les règles, on a pratiquement supprimé les grands blessés dans le rugby liés à notamment cette phase d'entrée en mêlée qui était à risque.
C'est un match de rugby presque ordinaire. Ce soir-là, l'équipe d'étudiants en médecine de Toulouse s'apprête à batailler contre des étudiants ingénieurs. 10 minutes avant la rencontre, l'arbitre explique aux deux capitaines une des nouvelles règles de plaquage expérimentées en championnat universitaire.
On peut venir plaquer ici. En fait, c'est pas haut, c'est pas une grosse faute. Mais je vais la sanctionner parce qu'on demande ce que ce soit vraiment du plaquage à la taille.
Depuis janvier, sur tous les terrains des campus toulousains, les plaquages au-dessus de la taille sont proscrits et un seul joueur est autorisé à venir plaquer le porteur du ballon. Une mini-révolution pour ces rugbymen, pour la plupart formés en club, qui doivent parfois lutter contre d'anciens réflexes.
Moi, ma vie entière, joueur, mon père, sur le bord de touche, on m'aurait dit « Daniel, aux jambes !» Il hurlait aux jambes. « Interviens sur les guibolles, tu le feras tomber. » Ou alors « Fais tomber !» Donc plaque aux jambes, intervient dans le segment moteur qui fera chuter le mec. Maintenant, non. Maintenant, le plaquage aux jambes, il vaut 3 sur 20. Putain, c'est quoi mon plaquage alors? Un bon plaquage, c'est un plaquage où t'arrêtes le mec. Il n'avance plus. Où tu lui empêches de donner la balle. Tu le bloques au haut. Ça, c'est 12 à 15 sur 20. C'est-à-dire, ça devient un très bon plaquage. Tu l'arrêtes, il ne peut plus donner. Tu le coffres. Et ensuite, tu le répulses. Ça, c'est 17 sur 20. Tu l'amènes chez lui. Tu vois? Tu inverses les timings. Et ensuite, tu lui fauches la balle. Tu lui arraches la balle, 20 sur 20.
Si on régule les règles, c'est pour ça que cette règle d'abaissement de la ligne de plaquage me paraît intéressante, parce qu'elle libère les bras, elle change les physiques, elle va permettre d'avoir des gens qui sont plus dans le mouvement et un peu moins dans la nécessité de se protéger physiquement. Parce qu'à partir du moment où on a toléré un plaquage qui est progressivement remonté, pour se protéger, il a fallu que les joueurs musclent le haut du corps. Ça a eu l'effet d'un rugby moins de mouvement et d'un rugby plus rentre-dedans. Et donc, à partir du moment où on va réabaisser la ligne de plaquage, on peut espérer qu'il y ait plus de passes, plus d'évitements. Et donc, le jeu se fonde plus sur la vitesse de passe et moins sur la résistance physique à un choc. Donc c'est une règle dont il faudrait discuter avec World Rugby et pas simplement au niveau amateur français.
Toi, tu avais déjà eu d'autres commotions avant ?
Oui, un an avant, commotion, et qui, elle, avait occasionné une perte de connaissance au moment. Du coup, j'ai été arrêté pendant un mois, j'ai eu un neurologue suite à ça, parce que à l'époque, j'avais perdu connaissance sur le terrain, et j'avais fait une petite crise d'épilepsie. Mais y a un protocole qui est mis en place, c'est-à-dire que quand on a une commotion, moi, neurologue, on arrête en 3 semaines, on refait des tests ou 3 semaines qui vont permettre ou non de reprendre le rugby. J'ai fait tous les tests à l'époque qui me donnaient les feux verts pour reprendre le rugby sans condition.
Moi, je ne fais plus de neurochirurgie depuis un an. Et quand j'étais dans le vestiaire de l'ASM après chacun des matchs, ils venaient me voir, ils me parlaient d'eux, ils se confiaient à moi et j'ai perçu chez tous, pratiquement sans exception, une certaine angoisse. En se disant, une certaine fatalité, en disant, mais bon, finalement, je gagne très bien ma vie, j'en ai plus que pour 3 ans, je vais essayer de jouer le jeu et j'espère passer à travers les gouttes. Mais beaucoup sont inquiets parce que c'est un jeu après tout. Moi, je pratiquais un jeu sur un terrain pour mourir ou pour se trouver avec une maladie semblable à celle à la maladie d'Alzheimer, c'est terrible. Ça ne peut qu'inquiéter. Il y a eu un virage aux États-Unis. Il s'est passé en 2013. En 2013, il y a une publication par l'école de Boston, qui est un peu la mecque des neurosciences, qui a dit, voilà, on a fait l'autopsie de 64 ou 67 cerveaux de joueurs décédés, ayant pratiqué le football américain, ayant subi des commotions à répétition. Eh bien, on a trouvé, et c'est terrifiant, 80% de signes identiques à ce qu'on trouve dans la maladie d'Alzheimer. Et d'ailleurs, ces gens étaient décédés précocement, entre 40 40 et 50 ans, certains s'étaient suicidés parce qu'ils allaient mal, c'est terrifiant. Alors moi je pense que dans le rugby, si on se reprend pas, et très vite, on va avoir des bombes à retardement judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire, mais attendez, on est prévenu, on sait que la commotion c'est dangereux, que ça peut entraîner des maladies dégénératives, on m'a fait rejouer, ou on a mis dans le fond de mon dossier l'IRM qui n'était pas tout à fait normal, et je dépose une plainte. Bon, et ça fera comme l'amiante. L'amiante, personne n'a été condamné tant qu'on ne savait pas que l'amiante était dangereuse.
Aujourd'hui, cet accident, qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie? Comment tu vois les choses aujourd'hui, avant et après? J'imagine qu'il y a un avant et un après.
Et là, je suis un peu dans une période de transition, parce que j'étais étudiant à l'époque, je faisais une licence. J'ai dû arrêter cette licence suite à mon accident. Je vais continuer en master après ça. J'ai réussi à rentrer en master que j'ai dû arrêter suite à mes séquelles d'attention, de coordination, tout ça. Je suis parti à l'étranger, essayer de me reconstruire tout seul. Je suis revenu il y a peu de temps. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est que les séquelles que j'ai eues m'empêchent de faire le métier. Et là, du coup, je suis dans une période où je me pose des questions, à savoir qu'est-ce que je... C'est plus de la question, c'est plus savoir ce que je veux faire, ce qui me plaît, savoir qu'est-ce que je peux faire. J'ai tenté de faire un CAP de charpentier pour m'orienter vers des métiers manuels, mais j'ai pas pu les faire à cause de mes problèmes. Donc là, on arrive à 3 ans, et là, aujourd'hui, le fait est que je suis reconnaissant d'être en vie, de pouvoir encore vivre, avoir des amis et tout. Mais j'ai beaucoup de séquelles qui font que il faut que je m'habitue et je suis pas encore tout à fait prêt dans ma tête pour faire autre chose et voir qu'est-ce qui pourra me plaire avec mes capacités actuelles.
De ce sport, si on veut le sauver, si on veut l'aider à nous faire rêver à nouveau, il faut mettre tout à plat. Et peut-être que je vais dire quelque chose d'un peu terrible. Je crois que les joueurs, eux, se sont professionnalisés. Mais les dirigeants, ils se sont pas professionnalisés, eux. Ils lisent pas. Ils connaissent pas les données scientifiques de la commotion cérébrale, du traumatisme. Alors ils disent, si, j'ai bien compris, mais je suis pas sûr qu'ils aient parfaitement compris.
Plaquage de trop, fin de la deuxième partie, avec Daniel Herrero, Florian Grill, Jean Chazal, Maxime Villalongue, Sabri et Benjamin Perrier. Attaché de production, Daphné Abgral, avec la collaboration de Suzanne Saint-Cast. Archivina, Denis Forger. Prise de son, Romain Luquiens. Coordination, Christine Bernard. Merci au Rugby Club de Drancy. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Vincent Deck. But
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve dimanche prochain. Nous courrons le 400 mètres, mais c'est une autre histoire.